Radio Okapi. Journal présenté par Gisèle Cage.
Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Radio Okapi pour votre journal. Sans plus attendre, voici le grand titre qui font l'actualité aujourd'hui. Kinshasa confronté à une grave pénurie d'eau potable. Plusieurs communes privées d'approvisionnement depuis l'arrêt de l'usine de traitement de Lukunga, paralysée par une obstruction due aux fortes pluies. Étape cruciale dans la quête de paix en Ituri. Un dialogue intercommunautaire d'envergure s'est ouvert entre Emma et Lendo avec le soutien de la MONUSCO. L'objectif est clair, apaiser les tensions, reconstruire la confiance et créer les conditions d'un retour durable des milliers de déplacés dans leur village d'origine. En mission à Beni, une zone confrontée à une insécurité persistante et à de lourds défis humanitaires. Le Fonds des Nations Unies pour la population renforce son action en faveur de la santé sexuelle et reproductive. L'organisation intensifie également ses initiatives pour l'autonomisation des femmes et des jeunes filles, souvent les plus vulnérables dans ces contextes de crise. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Naomi Dalmont, représentante adjointe de l'UNFPA en RDC, dans un entretien exclusif à ne pas manquer. Nous ouvrons ce journal avec une crise qui touche de plein fouet les quotidiens de nombreux Kinois. Depuis le lundi 26 mai, l'usine de traitement d'eau de la régie des eaux située à Lukunga, dans l'ouest de la capitale, est totalement à l'arrêt. En cause, une accumulation massive des sables, conséquence directe de fortes pluies récentes, a obstrué les conduites du système de captage, paralysant ainsi toute la chaîne de distribution. Résultat, dans plusieurs communes des districts de Lukunga, notamment Mungafula, Ngaliema et Kintambo, les robinets sont à sec. Une situation alarmante qui complique la vie des milliers de familles contraintes de chercher des solutions alternatives pour s'approvisionner en eau potable. Un reportage signé Elise Kavira.
C'est après les fortes pluies qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa ces derniers jours que les habitants des quartiers Malueka, Pompage, Kinsuka Pêcheur, Brikin, Mboudi, Kimbwala et Don Bosco ont constaté que l'eau ne jaillissait plus bientôt plus d'une semaine. Madame Eugénie, une mère de famille vivant sur l'avenue Bonacheco, quartier Kinsuka Pêcheur, nous parle de son calvaire.
À chaque fois qu'il y a la pluie, il y a toujours une coupure d'eau pendant 2 ou 3 jours. Et on s'arrange pour demander de l'eau par-ci, par-là, là où il y a des puits, des forages.
Du côté des pompages, Ketia, une jeune fille d'environ 18 ans, explique qu'ils doivent à présent débourser de l'argent pour trouver de l'eau.
Un bidon, c'est 1 000 francs. Nous, on a 16 bidons. Si on veut payer tous les 16 bidons, là, on doit faire sortir 16 000 francs. Puis 5 000 qu'on doit monter jusqu'à Sola là-bas.
Dans le but d'apaiser les abonnés en difficulté, Raymond Matundu-Paka, directeur régional de la régie des eaux Kinshasa-Ouest, s'exprime.
Mais nous sommes en train de nous battre pour essayer un peu d'évacuer tous ces bancs de sable, que ce soit au niveau de la rivière Lukunga Luka et la rivière Nchili. Donc, on y travaille.
Raymond Matundu dit ne pas être en mesure de se prononcer sur la durée des travaux, mais rassure la population que les travaux sont en cours et la situation sera rapidement décantée.
Ce 28 mai, la planète a célébré la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, une initiative lancée par les Nations Unies en 2014 pour briser les tabous autour de règles et promouvoir un accès équitable aux produits d'hygiène pour toutes les femmes et filles. À cette occasion, en mission à Beni, dans la province du Nord Kivu, la représentante adjointe de l'UNFPA, Naomi Dalmont, a lancé un cri d'alarme dans cette région en proie à une crise humanitaire prolongée. Seuls 2% de besoins en produits menstruels sont actuellement couverts pour les femmes en âge de procréer. Elle a également souligné le manque criant d'éducation menstruelle chez les jeunes filles déplacées, un facteur aggravant qui contribue à la hausse de grossesse précoce. Elle s'est exprimée au micro de Marcel Papimoukeba.
Et l'hygiène menstruelle est un problème très important en situation de crise parce que, imaginez-vous une femme qui se retrouve à partir laissant tout derrière elle et qui a les règles 2 jours après qu'elle a enfui. Elle commence à perdre du sang, elle commence à rester sale, elle veut se cacher, elle a la honte et puis elle sent et elle n'est pas à l'aise du tout. En général, la situation du Nord Kivu, on essaie d'avoir un grand nombre de kits d'hygiène menstruelle ou de dignité selon le nom qui on veut leur donner pour pouvoir leur donner les produits d'hygiène menstruelle de leur préférence. Et actuellement, au Nord Kivu, on couvre même pas 2% des besoins des femmes en âge reproductif en gestion de l'hygiène menstruelle en termes de disponibilité des produits d'hygiène menstruelle. Bien sûr, les gens peuvent se débrouiller et les trouver eux-mêmes dans les marchés, mais la capacité des humanitaires est actuellement très faible. Précisément, on a plus de 11 000 kits qui on prévoit cette année, mais justement ça, c'est même pas les 2% des besoins pour la gestion de l'hygiène menstruelle. Et c'est pas seulement ça. Dans les camps de déplacés ou dans les familles d'accueil, les filles ne savent même pas comment ça fonctionne, les cycles des règles, et très souvent, le problème des grossesses précoces.
Dans une région longtemps marquée par des violences intercommunautaires, les communautés Ema et Lindu se retrouvent depuis hier à Fataki, territoire de Djougou, province de l'Ituri, pour un dialogue d'envergure soutenu par la MONUSCO. Cette initiative vise à apaiser les tensions persistantes, rétablir la confiance entre les populations et poser des bases d'un retour durable des milliers de déplacés internes vers leur terre d'origine. Sadiq Aboubakar nous en dit plus dans ce reportage.
C'est depuis quelques mois que les deux communautés ne se côtoient presque plus dans la région de Fataki et Djaïba. Un climat entretenu par les attaques en répétition de la milice Codeco dans la région de Djaïba, ciblant particulièrement les personnes déplacées dans leurs différents sites. Une situation qui oblige des milliers de personnes à s'installer près des bases des casques bleus de la MONUSCO. Elles craignent de passer la nuit dans les villages ou même les sites de déplacés malgré les dispositions sécuritaires mises en place. L'administrateur du territoire de Djougou, le commissaire supérieur principal Rufin Mapela, revient sur les objectifs poursuivis.
Ces dialogues communautaires visent une cohésion sociale et une cohabitation pacifique qui permettra le retour de la population déplacée ici à Fataki.
Ces assises bénéficient de l'appui technique et logistique de la mission onusienne pour accompagner ces communautés à résoudre pacifiquement leurs différends pour la promotion de la paix et du vivre ensemble. Firmin Kone, représentant du chef des bureaux de la MONUSCO.
Esquiver le dialogue, recourir à la violence, c'est l'arme des faibles. Il faut être fort pour accepter le dialogue. Il faut être fort pour aller s'asseoir à la même table que son adversaire.
Ce dialogue intercommunautaire va durer 3 jours. Depuis Fataki, Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Reportage de Sadiq Aboubakar depuis Fataki en Ituri. En économie, la Banque centrale du Congo renforce les règles de gouvernance dans les secteurs bancaires. Elle exige désormais que toutes les banques opérant en RDC comptent au moins 4 actionnaires distincts dans son capital social. Dans un communiqué parvenu ce mercredi à Radio Capi, plusieurs opérateurs congolais du secteur saluent cette mesure qu'ils considèrent comme un pas important vers plus de transparence et de stabilité dans les systèmes bancaires national. Les précisions avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bien que cette disposition n'impose pas explicitement la présence d'un Congolais parmi les actionnaires indépendants, elle représente une opportunité stratégique pour encourager la participation des investisseurs nationaux au capital des banques établies sur les territoires. Elle s'inscrit dans une vision de souveraineté économique, d'inclusion financière et de promotion d'une économie centrée sur les intérêts congolais. L'ouverture des capitaux bancaires aux nationaux permet également de reconnaître la compétence des entrepreneurs, leur ambition, leur engagement et leur droit légitime de prendre part à la gouvernance et à la création des richesses dans les secteurs financiers. La plupart des opérateurs du secteur bancaire congolais jugent important de ne pas réduire cette ouverture du capital à une simple exigence technique, car elle constitue un appel clair aux entrepreneurs congolais à s'impliquer activement dans cette transformation. Leur expérience du terrain, leur dynamisme et leur connaissance des réalités locales sont autant d'atouts pour bâtir une gouvernance financière ancrée dans les besoins et les priorités de la population congolaise.
Dans la province de Lomami, la succursale de la Trust Merchant Bank Tembe à Mweneditu reste fermée depuis près de 3 semaines en cause un différend fiscal avec la Direction générale des recettes de Lomami qui réclame le paiement de l'impôt sur le revenu locatif. Face à cette impasse, les députés nationaux de la province s'impliquent pour tenter de trouver une solution et permettre la reprise des activités bancaires. Le détail avec Esther Ndalafina.
Les portes de la TMB succursale de Mweneditu sont toujours scellées depuis bientôt 3 semaines. La Direction générale des recettes de Lomami durcit le ton, répondant à une correspondance dans laquelle la TMB décline toute responsabilité pour le paiement de l'impôt sur le revenu locatif, car étant locataire dans le bâtiment, la Direction générale des recettes de Lomami estime que la TMB est animée de mauvaise foi. Par manque de compromis, les députés nationaux et élus de la province province de Lomami s'implique pour trouver une solution. Depuis le début de la semaine, certains se sont rendus à la direction générale de la TMB à Kinshasa pour s'enquérir de la situation. D'autres se sont engagés d'échanger avec le gouverneur de province de Lomami. Rappelons que cela fait 3 semaines que la TMB succursale de Bonéditou est scellée suite au non-paiement de l'impôt sur les revenus locatifs. Pendant ce temps, plusieurs clients disent être pénalisés pour les transactions bancaires. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Bonne nouvelle pour les habitants d'Epinga dans le territoire de Walikale au Nord Kivu. Ils sont à nouveau connectés au réseau des télécommunications. Dans le groupement Kisimba, la société Vodacom a rétabli son signal il y a plus de 3 jours après une interruption survenue le 1er mai dernier en raison de problèmes techniques. Ce rétablissement met fin à un véritable calvaire pour la population contrainte jusqu'ici de parcourir près de 40 km aller-retour entre Pinga et Mutongo simplement pour passer un coup de fil ou effectuer une transaction mobile. Le secrétaire permanent du cadre interpaysan pour la transformation des conflits à Pinga, Julien Bounda, salue cette reprise du service tout en renouvelant son plaidoyer pour les enseignants et le personnel soignant de la région toujours privé de salaire depuis plusieurs mois. Écoutons ses propos.
C'est pour nous une bonne occasion de remercier les autorités qui gèrent la téléphonie communicationnelle Vodacom au niveau de la province de Nord Kivu, ainsi que les autorités provinciales qui ont fait tous les moyens afin que les réseaux Vodacom puissent être rétablis à Pinga et ses environs. Nous continuons toujours à supplier les gouvernements provinciaux et nationaux. Comme il y a eu déjà rétablissement du réseau, de penser vraiment à payer les personnels de la zone de santé de Pinga qui réalisent maintenant jusque-là 8 mois impayés par les blocages du paiement de la banque au niveau de Goma. Et la solution que nous avons recommandée, c'était de payer ces personnels par la voie téléphonique, comme ça se fait déjà dans le secteur de l'éducation au niveau du territoire de Walikale.
Passons à l'actualité environnementale. L'Église du Christ au Congo ECC appelle à un engagement renforcé pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. C'est dans cette optique que sa direction en charge de l'environnement à travers l'ONG ECC Bâtir a organisé hier mercredi une matinée de plaidoyer sur le thème assainissement résilient face au changement climatique. L'objectif de cette initiative est de proposer des mécanismes durables pour consolider les efforts déjà entrepris en matière d'assainissement urbain. Plusieurs partenaires ont répondu présents, notamment le ministère de l'Environnement, l'UNICEF, Equity BCDC, ainsi que des organisations actives dans le domaine. Le compte-rendu avec Étienne Lissoumbo.
Certaines structures ont présenté des activités qu'elles réalisent dans la lutte contre les changements climatiques. C'est entre autres le recyclage des déchets plastiques qu'elles utilisent pour la construction des latrines et la fabrication des briquettes. Eric Kasinga, fondateur des Recoplast, a ainsi expliqué la circularité des déchets dans la ville et l'apport de son entreprise de recyclage.
Qu'est-ce que vous allez faire du plastique? Vous allez le vendre à combien? Est-ce que ça va arriver à couvrir vos charges? Parce qu'on ne peut pas dépendre toujours du gouvernement ou des bailleurs. Beaucoup de bailleurs ne sont pas intéressés par le plastique.
Dans leur réflexion pour assainir Kinshasa, j'ai Léon Muposhi, représentant du ministère de l'Environnement, a mis l'accent sur le rôle que chaque parti devrait jouer.
Parce que ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement sur la question de la gestion des déchets. Il faudrait que tous les acteurs, que ce soit la population, que ce soit le gouvernant qui ont la décision dans le secteur, pour essayer de voir ensemble comment est-ce que nous pouvons concourir afin de déceler, de déterminer ce qui doit nous permettre de trouver des résultats escomptés.
Pour réussir ces combats, l'assainissement devrait être inculqué à la base, dans les écoles, estime Honoré Kilendo, directeur de ECC Bâtir.
À partir de l'école maternelle, l'école primaire, il y a des matières ou des cours qu'on donne à l'élève.
Une commission a été mise en place pour réfléchir sur une feuille de route à soumettre au gouvernement central.
Actualité internationale. La Russie propose une nouvelle session de pourparlers direct avec l'Ukraine à Istanbul le 2 juin afin de présenter un mémorandum détaillant ses conditions pour un accord de paix durable. L'annonce a été faite par le ministre russe des Affaires étrangères, précisant que la délégation russe conduite par Vladimir Medinsky est prête à fournir toutes les explications nécessaires lors de cette rencontre. De son côté, l'Ukraine s'est dit ouverte à des nouvelles discussions mais exige de recevoir à l'avance les propositions russes Grâce. Nous attendons leur mémorandum. Ils ont encore au moins 4 jours pour nous le transmettre, a déclaré le ministre ukrainien de la Défense. La précédente rencontre tenue le 16 mai à Istanbul marquait la reprise des négociations directes entre Kiev et Moscou, une première depuis celle de printemps 2022 au début de l'invasion russe à grande échelle.
L'invité.
En mission à Beni, dans la province du Nord Kivu, Noémie Dalmont, représentante adjointe du Fonds des Nations Unies pour la population en République démocratique du Congo, s'est rendue sur le terrain pour suivre de près des actions menées en faveur de la santé sexuelle et reproductive, ainsi que de l'autonomisation des femmes et des jeunes filles dans un contexte marqué par l'insécurité et les défis humanitaires. L'UNFPA multiplie les initiatives pour renforcer l'accès aux services de santé, promouvoir le droit des femmes et contribuer au développement durable des communautés locales. Elle est au micro de Marcel Papi-Moukeba pour nous parler du sens de sa visite, de projets en cours et de perspectives d'avenir. Suivez leur entretien.
Madame Dalmont, bonjour.
Bonjour.
Vous arrivez à Beni dans un contexte marqué par une crise prolongée dans l'est de la RDC. Les violences armées, les déplacements massifs et les atteintes aux droits humains touchent particulièrement les femmes et les jeunes filles. Dans ces tableaux préoccupants, quel est l'essence et la portée de votre mission ici à Beni?
Je suis venu à Beni essentiellement pour voir la conduite des activités. Comme vous savez, UNFPA ouvre dans la santé sexuelle et reproductive, et y compris la protection des femmes contre les violences basées sur les genres. Et je suis venue vraiment pour pouvoir voir la qualité des activités, les types des activités qu'on mène et les ajustements par rapport aux grands mouvements massifs. Actuellement, il y a plus de 2,2 millions de personnes en déplacement au Nord Kivu et il y en a beaucoup qui se sont bougés vers le Grand Nord. Donc, il y a une réadaptation des activités. On a besoin de voir les activités programmatiques, comment elles sont conduites. Et surtout, j'ai besoin de parler avec les autorités locales. Heureusement, j'ai rencontré le gouverneur militaire qui était en visite à Bounia où j'étais juste la semaine. Donc, j'ai déjà pu parler avec lui et discuter de la collaboration, y compris sur des sujets très importants comme la surveillance des décès maternels qui augmente en situation de crise et qui est une des préoccupations principales avec l'augmentation de violences et des risques pour les femmes et les filles d'être exposées au VPG.
De nombreux rapports soulignent l'augmentation des cas de violences sexuelles liées au conflit dans le Nord Kivu et même les sites Kivu, également l'Ituri. Quelles réponses concrètes l'UNFPA met-elle en œuvre pour accompagner les survivants tout en renforçant la prévention au niveau communautaire?
On a une stratégie nationale VPG du gouvernement qui aligne un peu les piliers d'intervention principales qu'elle nous investissons dedans. Une FPA, un programme qui est axé essentiellement sur les questions d'offre de services. Donc on voudrait que chaque survivante sache où pouvoir aller en cas elle se trouve dans une situation malheureuse d'avoir subi une attente et une violence sexuelle. Et ces services doivent être multisectoriels. Maintenant, quand la situation sécuritaire est très fragile et nous privilégions les services médicaux puisqu'ils sauvent des vies et donc la disponibilité des kits post-viol, la disponibilité des personnels formés, les sages-femmes formés aux soins de prise en charge de VBG et les dispositifs de prise en charge psychologique, donc tout ce qui est santé mentale. La partie justice, la partie réinsertion socio-économique qui font partie du modèle multisectoriel qu'on offre aux femmes victimes de violences sexuelles est plus difficile à assurer dans des zones de fragilité telles que le Grand Nord de la province Nord Kivu actuellement.
L'UNFPA parlait souvent d'autonomisation des femmes et de l'accès à la santé sexuelle et reproductive comme levier de développement. Comment ces engagements prennent-ils forme dans une zone comme Beni où la survie est parfois une priorité chaque jour?
Alors, l'autonomisation des femmes est dans plusieurs niveaux. C'est d'abord dans la connaissance de ses droits et ses compétences. Alors, il y a des engagements pour le développement et une approche qu'on appelle souvent nexus entre les activités qui ont défini comme activités humanitaires, activités de paix et activités de développement, qui nous permet de pouvoir faire certaines activités qui y sauvent la vie, mais qui font partie de l'approche développement et qui peuvent aider à un renforcement de l'autonomisation et la résilience de communautés. Et par exemple, quand on donne l'assistance en cash à des femmes qui sont à risque de violence basée sur le genre ou qui sont dans les circuits de référencement parce qu'ils sont en train d'être prises en charge, on peut les accompagner avec des compétences de vie pour pouvoir apprendre à gérer cet argent et pouvoir l'investir dans des petites activités qui lui permettent d'aller au champ ou de faire la couture ou de vendre quelque chose au marché pour pouvoir avoir les minimums pour vivre, elle, les enfants, payer les recettes de Watoto pour aller à l'hôpital, etc. Donc c'est cette approche-là qui nous essayons de mettre déjà déjà dans les activités humanitaires qui sont les plus présentes à cette période dans la situation actuelle, pour pouvoir trouver un lien avec l'action de développement vers les solutions durables qu'on peut avoir dans les zones de stabilisation où on n'en a pratiquement pas actuellement au Nord Kivu.
Dans une situation où la résilience de la population de l'Est est mise à rude épreuve actuellement, quel message fort adressez-vous aujourd'hui aux femmes, aux jeunes filles et aux partenaires locaux du Nord Kivu, du Sud Kivu et même de l'Ituri qui luttent chaque jour pour la dignité, la sécurité et l'espoir?
Les femmes ont une force qui est incroyable. Dans tous les pays où j'ai travaillé, et puis ce n'est pas la première fois que je travaille en RDC, je connais très bien les femmes congolaises. Elles ont une résilience qui est incroyable. Donc la force est dans nous-mêmes, nous toutes. L'important, c'est vraiment de trouver la force et la résilience. Et ça, pour moi, c'est le message le plus important parce que c'est des temps difficiles. Nous sommes là. Il y a une réduction des financements, il y a une réduction de la présence des humanitaires qui est visible, qui est impactante. Mais nous sommes là et nous serons toujours là.
Noémie Dalmonte, merci.
Vous venez d'entendre Noémie Dalmonte, représentante adjointe du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. Elle était notre invitée et répondait aux questions de Marcel Papimoukeba. C'était votre édition de 8h sur Radio Capi, à la mise en onde Polydor Basunga, présentation Gisèle Cage, coordination Jude Mister Bilanda, supervision Martin Sebujangwe. Nous vous remercions de votre attention. Pour suivre toute l'actualité en temps réel, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook et X, ou rendez-vous sur notre site www.radiocapi.net. Merci de votre écoute et à très bientôt.